Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout le monde ici, sans aucun doute, connaît bien la vie de Sainte Jeanne d'Arc et son rôle providentiel pour la France. Cette petite bergère de Domrémy dont nous fêtons l'anniversaire de la naissance cette année, va devenir, malgré elle quasiment, un véritable chef de guerre pendant ce terrible épisode de l'histoire de France qui a pu être la guerre de 100 ans. Guerre qui a pu ravager notre patrie, guerre qui a pu déstabiliser les nations, guerre qui a évidemment entamé la paix et donc par là même la vie spirituelle des membres de cette nation. On ne peut qu'admirer le courage de cette jeune fille qui, recevant des voix du ciel, et il faut bien avouer que cela n'est pas ordinaire, n'a pas eu peur de les écouter et de les suivre, continuant toute. Parce que les recevant, elle ne savait absolument pas ce qu'allait être son destin, ce qu'allait être sa destinée, et néanmoins, elle a accueilli cela comme étant la parole de Dieu, comme étant une mission venue du ciel, et même si le futur ne lui était pas livré, elle savait ce qu'elle avait à faire et elle a acquiescé de grand cœur. Chacun a sa vocation, chacun a à répondre à la volonté du bon Dieu sur lui. Dieu va donc se servir d'elle, de cette petite Jeanne, pour restaurer la France. Et elle, avec la force divine qui lui est donnée, en même temps que lui est donnée sa vocation, va ainsi ranimer les courages, raviver l'espérance et sauver tout ensemble la foi et l'avenir de son pays, de notre pays. On ne sait trop ce qu'il faut admirer en elle, de sa piété envers Dieu, de sa sollicitude et de son zèle pastoral pour les âmes, de ses compétences militaires ou de sa sagesse. Et permettez-moi de vous rappeler quelques petits épisodes, justement, de sa vie, de cette vie si complète, dans laquelle elle n'a pas, j'allais dire, saucissonné les diverses parties de son existence, mais qu'elle a su, au contraire, grâce à Dieu, harmoniser. Elle a tout tenu afin de pouvoir être véritablement celle qui plaît à Dieu. Sa piété, tout d'abord, envers Dieu. Eh bien oui, c'est ce qu'il faut admirer en premier. C'est une âme simple, une âme belle, qui a l'habitude de prier. Et avec sa mission, et avec ses voies, et avec ce qu'elle doit réaliser, elle sait qu'elle ne le pourra que si elle reste en union étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, quelle leçon ! Nous avons tous des devoirs d'État. Nous avons tous une mission, si petite soit-elle, à accomplir sur la terre, quel que soit notre âge, quelles que soient nos compétences. Est-ce que nous savons rester comme elle, en union étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ ? Elle prie, et elle prie souvent. Et nous qui avons peut-être souvent tendance à dire « La journée a été longue, la journée a été difficile, la journée a été ceci ou cela », nous savons que Sainte Jeanne d'Arc, malgré une journée de bataille, eh bien, savait se mettre à genoux le soir, dans la fatigue, parce qu'elle n'avait pas forcément des forces supplémentaires données par Dieu. Elle n'était pas exempte non plus de fatigue, eh bien, elle se mettait à genoux et elle priait tout particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Le matin, elle priait avant d'aller combattre, elle priait régulièrement, elle priait pour ainsi dire constamment. Et son union à notre Seigneur et à Notre-Dame était aussi visible sur l'étendard qu'elle portait. Elle n'était pas seulement chef de guerre humain, elle combattait pour le Christ et au nom du Christ, pour sa patrie temporelle. Mais néanmoins, le but était toujours celui-ci, faire la volonté du bon Dieu. Et alors, elle avait inscrit ou fait inscrire sur sa bannière Jésus et Marie, deux noms qui étaient véritablement son étendard. Prière donc, prière et communion, une communion fervente qu'elle préparait soigneusement parce qu'elle savait que si elle restait en union avec Jésus, elle pouvait accueillir sa mission et la réaliser pleinement. Donc une piété extraordinaire, et on la voit tout à la fin demander ultimement sur le bûcher un crucifix pour pouvoir regarder Jésus et pouvoir ainsi, quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard, le rencontrer réellement. Quel amour il devait y avoir dans ce regard entre elle et ce crucifix. Également, eh bien, nous pouvons admirer toute cette sollicitude et son zèle pastoral pour les âmes de ceux qui l'entouraient. Sainte Jeanne d'Arc aimait profondément ses compagnons, que ce soit les grands chefs de guerre, chefs militaires, mais aussi eh bien, tous les fantassins qui étaient autour d'elle et qui l'accompagnaient dans cette guerre. Il faut bien avouer que ce qu'elle voulait d'abord et avant tout, certes, c'était la victoire humaine, mais c'était qu'ils ne perdent pas leur âme pendant cette bataille et après cette bataille, parce qu'elle savait bien que ce qui compte au final, c'est toujours que l'âme puisse aller et rencontrer son Seigneur et aller au ciel. Alors, elle va interdire le blasphème, elle va essayer de proscrire eh bien, cette mauvaise manière de parler, et on peut imaginer que cela n'a pas été sans mal dans l'armée avec tous ceux qu'elle côtoyait. Mais elle avait le génie des formules, et alors au lieu eh bien, que les gens emploient le nom de Dieu à tort et à travers, elle leur demandait de changer la formule. Chose intelligente, plutôt que d'interdire de parler, on prononce une parole complètement banale, et elle leur disait « pardon, va-t-on ? » Hein, et comme ça, c'était beaucoup mieux que de dire « eh bien, par le nom de Dieu » ou je ne sais quoi. Ainsi, il y a une intelligence et aussi une pédagogie chez elle qui va l'inciter toujours plus à trouver les bons moyens pour élever les âmes qui sont à ses côtés. Elle n'en restait pas là, elle les poussait à prier avant les batailles, elle les poussait à communier et surtout à se confesser afin qu'ils puissent être en état de grâce. Alors oui, Sainte Jeanne d'Arc a véritablement touché les âmes qui étaient autour d'elle, par son zèle et aussi, et évidemment, par son exemple. Ses compétences militaires, je ne vais pas les rappeler ici, ce n'est pas forcément le lieu, mais enfin nous pouvons voir que notre Seigneur lui a donné des lumières particulières, parce que c'était son rôle à ce moment-là que de savoir, que d'élaborer avec les hommes compétents une stratégie, voire même à s'opposer parfois à leurs décisions un peu humaines et à se dire l'objectif est celui-ci, eh bien il faut aller vers l'objectif, il faut foncer, Dieu sera véritablement avec nous. Et ces lumières, eh bien, n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient aussi naturelles pour accomplir son devoir d'État. Enfin, la sagesse, évidemment, on pense toujours à ce procès magnifique qu'il faudrait lire et relire pour voir combien une petite jeune fille, eh bien, a pu répondre sans faute dans un parcours qui était absolument extraordinaire puisqu'elle avait en face d'elle à la fois des évêques, des théologiens, des grands pontes, j'allais dire, de l'université de Paris, qui étaient loin d'être inintelligents et d'être sots, eh bien, elle a su toujours répondre parfaitement. Alors qu'ils allaient se reposer tranquillement après l'interrogatoire, sans doute chez eux, bien confortablement, elle retournait dans son cachot, et là, elle priait, demandait des lumières, et certaines de ses réponses sont inscrites, voire même utilisées dans les catéchismes, pour pouvoir rappeler que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Si je ne suis pas en état de grâce, eh bien que le bon Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Elle a déjoué absolument tous les pièges que lui tendaient ces théologiens plus ou moins véreux. Alors, admirons cette sagesse que notre Seigneur veut nous donner. Parce que nous aussi, nous sommes parfois en difficulté à répondre. Parce qu'on nous pose telle ou telle question, et que parfois on hésite, parfois on ne sait pas. Si nous sommes en union avec notre Seigneur nous a promis le Saint-Esprit, il nous le donnera et il saura nous faire parler. Peut-être pas comme un théologien extraordinaire avec des concepts extrêmement élaborés, mais comme Sainte Jeanne d'Arc, des choses simples, dites simplement, mais vraies, et donc qui touchent les âmes. Elle va s'attacher, parce que c'est son rôle aussi, à restaurer l'autorité légitime en allant faire sacrer celui qui devait être roi. Et alors, la grâce tombe sur ce brave homme, et afin qu'il puisse être l'instrument plus ou moins docile de la divine providence et de la restauration nationale. Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, une fois qu'elle a accompli sa mission, la providence va vouloir non pas qu'elle soit honorée tout de suite, qu'elle soit louée, mais malheureusement, ou heureusement pour elle, elle va être progressivement lâchée par tous. Et à la fin, après un procès long et difficile, elle sera condamnée et elle sera brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Quelques siècles plus tard, elle va être canonisée par Benoît XV en 1920 et proclamée patronne secondaire de la France par Pie XI, qui l'aimait particulièrement, le 2 mars 1922. C'est aussi Pie XI qui va déclarer patronne secondaire de la France Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour nous, eh bien, comme je l'ai déjà dit, c'est une grande leçon dans divers domaines que nous donne Sainte Jeanne d'Arc. C'est aussi une grande leçon de piété envers notre patrie. Il est une vertu naturelle qui est la piété, que nous devons porter certes à nos parents, mais également aux parents de nos parents, et par là même s'étendre à ce qu'on appelle la terre de nos pères, la patrie. Et cela est particulièrement important à l'heure actuelle que de vivre de cette vertu qui est la piété qui s'adresse à notre patrie. Et l'inculquer également aux enfants, parce qu'il faut être amoureux de sa patrie. Non pas des défauts, parce qu'il y a forcément des défauts, et on ne le voit que trop lorsqu'on accompagne des jeunes à l'étranger, où ils sont toujours à comparer et à faire cocorico, alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans tous les pays étrangers. Mais il faut aimer particulièrement sa patrie pour ce qu'elle a de beau. Il y a un amour légitime de la patrie, et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas du tout dans cette vertu, dans cette ambiance de vertu patriotique ou de piété. Au contraire, on est là toujours à faire une sorte de mea culpa pour toutes les fautes réelles ou supposées de la France ou de ceux qui sont passés avant nous. Mais de grâce que l'on fasse un mea culpa pour ses propres fautes. Les autres, eh bien, sont en train de payer leurs fautes au purgatoire ou ailleurs. Alors, laissons-les là où il faut. On n'a pas à cacher les fautes commis par les ancêtres, mais on doit surtout se réjouir et former, eh bien, une belle vertu en nous de l'amour de la patrie. Et la France, et nous avons de quoi nous réjouir. Que de choses à aimer dans la France. Toute son histoire regorge de héros, de savants, de saints et un peuple bon qui a prié et honoré les saints, Notre-Dame tout particulièrement, notre Seigneur et la Trinité tout entière. Également, il faut progressivement inculquer, me semble-t-il, un amour de la France vrai qui signifie sa caractéristique, et une des caractéristiques, me semble-t-il, de la France a été, eh bien, d'être baptisée il y a 1500 ans et surtout d'avoir, grâce à son génie national, exporté la foi aux quatre coins du monde. La France est, par essence, missionnaire et ouverte ainsi sur l'universel. S'il y a bien un pays qui n'est pas refermé sur lui-même, il suffit de regarder l'histoire de France pour comprendre, eh bien, que c'est bien notre nation. Au plus haut point, elle a compris et vécu ce qu'est la catholicité de la foi et de l'Église, à savoir cette dimension universelle. Et si nous aimons la France, et si nous devons cultiver, eh bien, cet amour, ce n'est pas pour nous enfermer en nous-mêmes, mais bien pour nous ouvrir à l'universel et aimer les autres. Et je crois que le pape l'a dit et rappelé à chaque fois qu'il est passé dans un pays lors de ses voyages à l'étranger. À chaque fois, il rappelle, et il a un terme bien spécifique, il dit qu'il faut être fier de ses racines, fier de son pays pour tout ce qu'il a commis de bien. Et alors, parce que l'on aime, on va pouvoir aimer les autres. Mais c'est comme dans la charité. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain. J'aime et j'aimerai mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Au niveau de la patrie, c'est exactement la même chose. Il faut aimer sa patrie et être enraciné en elle pour découvrir tout ce qu'il y a d'universel en elle et ainsi rejoint le génie national ou le génie eh bien, de tous les autres pays. Il faut également, parce que c'est l'heure et parce qu'il le faut d'ailleurs toujours, prier aussi pour nos dirigeants et ne pas avoir une logique de parti dans notre vie spirituelle. Certes, on peut n'avoir aucune affinité pour ceux qui vont bientôt nous diriger. Peut-être qu'on aurait souhaité quelqu'un d'autre, c'est fort probable. Mais néanmoins, nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas les voir uniquement comme chefs d'un parti ou chefs de je ne sais quoi. Ils sont désormais l'autorité légitime. Ils ont donc droit de notre part, et c'est même un devoir, de prier pour eux. Et il faut ainsi que le Saint-Esprit puisse les éclairer, voire même les empêcher de faire n'importe quoi pendant 5 ans. Et c'est de notre ressort. Les élections sont terminées, certes, ou presque. Eh bien, nous avons encore, comme catholiques, une carte efficace à jouer, qui reste la prière pour eux. Et s'il y a un complot de la prière, eh bien alors, on peut empêcher beaucoup de choses. Le respect de l'autorité vient d'abord et avant tout que cette autorité vient d'en haut, comme le rappelle notre Seigneur Jésus-Christ à Pilate. Et pourtant, Pilate était quoi ? Il était un occupant, quelqu'un qui n'avait rien à faire dans le pays de la Palestine. Néanmoins, le Christ lui rappelle ce qu'il en est. Donc il faut, eh bien, absolument prier. Je pense que Sainte Jeanne d'Arc n'était peut-être pas extrêmement favorable au prince qu'elle a porté à Reims. Néanmoins, elle l'a fait parce que c'était son devoir. Peu importe l'homme, désormais, il est revêtu de l'autorité. C'était ce que notre Seigneur attendait d'elle. Elle l'a fait. Et également, je pense qu'il ne faut pas se contenter de la prière. Certes, c'est l'essentiel. Mais il me semble qu'il y a de plus en plus urgence dans le domaine politique. Et donc, il va falloir prendre de bonnes résolutions, de faire quelque chose, c'est-à-dire de penser à quoi faire d'efficace. Parce que si on veut encore et continuer à perdre pendant des années et des années, voir la situation se dégrader d'année en année, on peut continuer de ne rien faire. Mais dans cela, il ne faut pas pleurer. Et donc, il faut s'activer pour trouver de bons moyens, des choses efficaces, pouvoir renverser la situation. Il n'y a pas de fatalité en politique. Et donc, il faut s'activer et s'investir dans le domaine politique qui n'est pas forcément rentré dans un parti, mais qui peut être très bien une association qui va défendre tel ou tel droit de la vie, par exemple, tel ou tel domaine dans l'ordre des écoles, ou je ne sais quoi, peu importe. Mais il faut le faire, parce qu'il faut tenir les choses. Et il faut ensuite, après les avoir tenus, les protéger, il faut les faire grandir. Et alors, on aura fait quelque chose. Et notre Seigneur sera heureux de cette avancée dans la cité. Parce que nous aurons rempli la mission qui était la nôtre, la mission qui était à notre portée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut faire des choses efficaces qui sont à notre portée. Même modestes, si nous sommes à notre place, nous faisons ce qui contribue à la restauration nationale. Sainte Jeanne d'Arc n'a pas demandé à être Premier ministre. Elle a fait ce que le bon Dieu lui demandait. Point. Et alors, eh bien pour nous, c'est une grande leçon, et une grande leçon eh bien, pour, encore une fois, restaurer la France, afin que, parce que le bien temporel n'est pas ultime, afin que le bien spirituel puisse être recherché et obtenu par nos contemporains, par nos concitoyens, avec le maximum de facilité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.